Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. En raison de travaux affectant les studios de RLP lundi et mardi dernier, la chronique habituelle du lundi 11h30 n'a pas pu avoir lieu. Et c'est donc ce jeudi 2 octobre que je vous propose cette chronique du groupe Fred Zeller qui va être consacrée à un aspect méconnu de la lutte des classes en guerre et en grève en Grande-Bretagne. C'est au moment de la sortie d'un livre d'une universitaire historienne, Ariane Mack, sur ce qui s'est passé en Angleterre pendant la dernière guerre mondiale que je vous propose cette note de lecture de son ouvrage qui est basé sur la thèse qu'elle avait également présentée sur ce sujet. L'historienne Ariane Mack a enquêté sur la situation des mineurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses travaux mettent en évidence ce fait majeur. Le gouvernement de coalition travailliste-capitaliste a été incapable de faire respecter sa législation anti-ouvrière, anti-grève. Et la note de lecture que je vais vous lire a été d'abord publiée sur un site d'une organisation syndicale et dans les pages d'un hebdomadaire paru la semaine dernière. Il n'y avait pas de grève pendant la guerre. Ce livre défie l'idée, solidement ancrée dans les représentations de la Seconde Guerre mondiale, d'une suspension des conflits sociaux au nom de la nécessaire unité nationale. De 1939 à 1945, le Royaume-Uni connaît plus de 7000 grèves, la plupart dans l'industrie charbonnière. Toujours au centre des revendications, la question des salaires, du salaire minimum et des cadences infernales. L'auteur, donc Ariane Mack, écrit « Pour les seules années 1940-1944, ce sont 7455 grèves qui sont répertoriées, impliquant près de 2,5 millions de travailleurs et plus de 9 millions de journées de travail, entre guillemets, perdues. Malgré une économie de guerre tout entière conditionnée par la production de charbon, l'industrie minière est le premier secteur en grève, loin devant les industries mécaniques et de manière bien plus prononcée que pendant la Première Guerre mondiale. Grève culminant lors des vastes soulèvements de l'hiver 1944. Ariane Mack note fort justement, ces grèves non officielles, voire pleinement sauvages, battent en brèche la politique de coopération des forces syndicales à l'effort de guerre. » Fin de citation. Évidemment, les grévistes sont l'objet de vastes campagnes de calomnie. La bonne presse domestiquée se déchaîne et, malgré, citation à nouveau, la politique de coopération de leurs syndicats, malgré une législation de guerre criminalisant les grévistes à travers le décret 1305, les grévistes tiennent bon ce qui leur permet d'arracher, et je reprends une citation, l'établissement d'un salaire minimum national. Le décret 1305, dont je viens de parler, donc je reprends une citation du livre d'Ariane Mack, promulgué le 18 juillet 1940 par le ministère du Travail, interdit de facto grève et lock-out, article 4 du décret, durant la période d'urgence et en fait même un délit pénal passible d'amende et d'emprisonnement. Fin de citation. Peine d'emprisonnement qui peut atteindre 2 ans. Pour compléter le dispositif, le ministre du Travail instaure une, citation à nouveau, une nouvelle procédure de règlement des litiges qui comprend en dernière instance un arbitrage obligatoire imposé aux deux parties. Fin de citation. Il s'agit évidemment de tenter de museler les revendications salariales. C'est sous la férule d'Ernest Bévin que s'appliquent ces dispositions anti-ouvrières. Qui était Bévin? Bévin était alors le principal dirigeant syndical du pays. Ariane Mack précise, très apprécié de Winston Churchill, Ernest Bevin est invité à rejoindre le cabinet de guerre. Ce qu'il fait. Du sang, des larmes, des salaires bloqués, l'interdiction de quitter la mine pour un autre travail, la remise en cause des accords collectifs, tel est son programme de guerre sociale. C'est donc sous sa férule que Churchill, le plus fourbe de tous, selon les grévistes, obtient le soutien officiel et inconditionnel des syndicats à l'effort de guerre et aux mesures que le gouvernement jugerait nécessaires à la victoire. Notons que le décret liberticide 1305 est reconduit jusqu'en 1951. Il y a les plans capitalistes et il y a la réalité des rapports de force entre les classes. Ariane Mack explique. Pour le ministre du Travail, Ernest Bevin, l'interdiction des grèves vise essentiellement à frapper l'esprit des travailleurs. Les autorités comptant sur le caractère dissuasif des sanctions pénales instituées par le décret 1305. La correspondance interne du ministère du Travail révèle que les poursuites n'ont pas à l'origine vocation à être mises en œuvre, à l'exception de cas restreints, ceux des grèves menées par une petite minorité d'éléments subversifs à des fins malveillantes. Il faut éviter à tout prix au gouvernement et aux tribunaux de se retrouver en opposition directe avec la base des travailleurs. Il est nécessaire de ne pas dévoiler l'impuissance du gouvernement à faire appliquer l'interdiction des arrêts de travail. Si la répression de l'appareil d'État s'avère déficiente, il se trouve des sections syndicales locales particulièrement zélées. Certains syndicats miniers font du décret 1305 un instrument de mise au pas de leurs propres adhérents, se montrant même plus intransigeants dans la répression des grévistes que les autorités. C'était une citation d'Ariane Mack. Certains syndicats proposent d'assister le ministère en offrant des renseignements sur leurs adhérents. Mais d'autres responsables locaux tiennent bon. Certains sont suspendus de leurs fonctions syndicales, surtout lorsqu'ils appellent à la solidarité ouvrière des puits voisins et qu'ils sont entendus. En Écosse, des militants éditent leur propre journal de grève, le Militant Miner, en décembre 1943, 9 numéros parus. Publication résolument opposée à la guerre impérialiste et rejetant la pilule amère de la rhétorique d'Union nationale. Ariane Mack décrit longuement la grève de 3 semaines de Betzhanger qui se déroule en janvier 1942. 1620 grévistes sur les 1790 ouvriers. Dans cette guerre des classes, ce sont les ouvriers grévistes qui l'emportent. Les sanctions pénales ne sont pas appliquées. Les dirigeants syndicaux locaux sont libérés. Les amendes ne sont pas payées, sauf par 9 grévistes qui demanderont à être remboursés jusqu'en 1950, mais en vain. Churchill et son collaborateur Bevin sont battus. C'est un encouragement pour toute la classe ouvrière résistante qui a obtenu le pardon du roi George VI, un pardon qui a certainement suscité quelques commentaires amusés. Pourtant, tout avait été mis en œuvre pour faire plier les grévistes accusés d'antipatriotisme, voire d'être des agents de la 5e colonne, une calomnie véhiculée par le petit parti stalinien dont la presse capitaliste relayait avec délectation les injures et les menaces. Le Daily Telegraph s'indignait. Comment est-il possible qu'à un moment comme celui-ci, un groupe d'ouvriers puisse défier de façon aussi nette une interdiction légale et dans un mépris absolu pour les besoins du pays ? C'est de l'anarchie pure et simple. Fin de citation. C'est non seulement possible, mais c'est absolument nécessaire. Quelques mois après Betzinger, les autorités britanniques sont confrontées en mai et juin 1942 à une vague de grève qui touche 181 houillères et mobilise 94 500 ouvriers de la mine, un soulèvement sans précédent depuis le début de la guerre. Sans le soutien des instances syndicales, la mine devient un chaudron en pleine ébullition. Les représentants de l'ordre, notamment ceux qui sont chargés de faire appliquer les sentences arbitrales, peuvent être la risée des grévistes. Ainsi, un certain monsieur Charles Doughty avait voulu descendre dans la mine pour se rendre compte lui-même des réalités du travail et, son exploit accompli, mater ses damnés rebelles. Mal lui en a pris. À peine au fond, l'individu s'évanouit. Trop dur. Un bon sujet de rigolade, à coup sûr. Les autorités responsables nationaux s'inquiètent de la perte d'autorité des délégués syndicaux, entre guillemets, subsidiaires de l'État. 7 grèves s'étendent au-delà de 10 jours, une jusqu'à 23 jours. Les mineurs ne sont pas sur le terrain des sempiternelles journées d'action bidon qui épuisent les finances des grévistes, les démoralisent pour finalement sauver la peau des exploiteurs. Bien évidemment, aucun rapport avec la situation actuelle. La lutte de classe ne s'arrête jamais. Le cabinet de guerre redoute un soulèvement général des bassins miniers. Il faut dire que les primes à la production que les patrons des mines opposent à l'augmentation des salaires ne font qu'attiser la colère. L'union sacrée, ça ne marche pas. Ariane Mack a ce commentaire. On retrouve l'idée selon laquelle des sacrifices doivent être aussi consentis par les patrons et la conviction que ceux-ci rejettent la faute de l'insuffisante production charbonnière sur les mineurs, alors qu'ils sont en réalité plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien de la nation. Conséquence, fin 1943, la plupart des mineurs et leurs représentants n'envisagent plus rien d'autre que la nationalisation complète de l'industrie. La question posée en 1947 sera nationalisation avec indemnité ou expropriation. En septembre 1943, le ministre du Travail annonce l'envoi dans les mines d'un premier contingent de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans pour pallier au manque d'effectifs. Tout se fait par tirage au sort. De fait, au moment même où les premiers Beavin Boys tirés au sort arrivent dans les mines, éclate la grande grève minière de l'hiver 1944, dit Ariane Mack. Avec plus de 275 000 mineurs mobilisés entre janvier et mars 1944, il s'agit de la grève la plus massive que connaissent les bassins miniers depuis la grande grève de 1926. Le gouvernement d'Union nationale peut bien sortir une nouvelle loi liberticide qui fait de l'incitation à la grève un délit. Rien n'y fait. Les 275 000 grévistes se fichent pas mal des discours moralisateurs des élites. Les petits jeunes tirés au sort sont les premiers à se mobiliser. De quoi faire enrager les co-constructeurs de consensus de l'époque. Beavin postule au titre de chef de meute de cela. Ces diatribes enragées n'ont rien à envier aux provocations des staliniens. Exemple en avril 1944. « J'aimerais dire aux mineurs, vous ne vivez pas en vase clos. » Si vous persistez à mener cette politique qui démolit les accords industriels conclus de manière légitime, si vous détruisez les tribunaux d'arbitrage national pour lesquels vous avez travaillé 30 ans durant et avez maintenant obtenu, si vous continuez à renverser vos dirigeants, alors vous aboutirez à l'anarchie et les mineurs ne seront pas les seuls à souffrir, mais l'ensemble de la classe ouvrière. Ce qui s'est passé cette semaine dans le Yorkshire est pire que si Hitler avait bombardé Sheffield et coupé nos communications. C'est là une chose absolument tragique de voir qu'en Grande-Bretagne, on peut faire plus de mal avec une action irréfléchie et un manque de discipline que ne pourraient le faire nos ennemis. La presse stalinienne qui écrit ça. Bien sûr. Toute la presse des domestiques reprend en cœur. Mais les mineurs en ont vu d'autres. Comme son compère ministre du Travail de Vichy, l'ex-syndicaliste René Belin, Ernest Beavin se range sans état d'homme du côté de l'ordre capitaliste. Même les plus étourdis auront noté sa passion pour les procédures d'arbitrage obligatoires qui portent en germe immanquablement l'interdiction de la grève. Avec sa Carta del Lavoro, Charte du Travail, dont le ministre du Travail fasciste et Benito Mussolini, son chef de guerre, l'avaient bien compris, pour le plus grand plaisir du Vatican, il leur fallait détruire les syndicats qui résistaient à l'intégration à l'État. Le fascisme, c'est ça. Confère encyclique Quadragesimo Anno 1931, celle qui bénit l'ordre mussolinien. Alors qu'en 1938, les mineurs adultes se classaient 81e sur près de 100 industries en matière de revenus, en octobre 1944, ils sont désormais 14e, derrière certains travailleurs des industries d'armement. Au printemps 1944, des dizaines de milliers de grévistes n'ont pas cédé aux injonctions des élites. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que les revendications aboutissent ? Pas du tout, proclame Beavin. Ils seraient manipulés par des éléments subversifs, des agitateurs trotskistes, aussi mystérieux qu'inquiétants. Beavin aimait aussi agiter le chaos, anarchiste. Il est vrai que quelques militants avaient courageusement rompu avec le bloc stalinien, mais comme le disait le secrétaire d'État à l'intérieur, Herbert Morrison, citation, « De manière générale, il semble peu probable que ces militants puissent atteindre une position qui leur permette d'exercer une véritable influence. » Fin de citation. Et ça, c'était son intervention au cabinet de guerre du 19 avril 1944. Pourtant, la dérive sécuritaire se poursuit. Un décret paru le 17 avril 1944 porte à 5 années d'emprisonnement le délit de grève. C'est Beavin, toujours lui, qui porte le projet soutenu par les dirigeants nationaux du TUC. Cerise sur le gâteau de gauche, les grévistes récalcitrants peuvent être expédiés à l'armée pour rééducation. Les piquets de grève, même pacifiques, deviennent illégaux. Conclusion. Les mesures répressives ne viennent pas à bout de la résistance ouvrière. Les capitalistes comptent sur la collaboration active des syndicats qui se comportent en corps intermédiaires, véritable police politique de l'État capitaliste. Juste une petite incise à cet endroit-là, c'est bien la raison pour laquelle on conteste fortement que les syndicats soient assimilés à des corps intermédiaires. C'est une chose qu'on a vue dans le langage de la Macronie. Je referme la parenthèse. Pour l'emporter, les classes exploitées doivent s'organiser de façon rigoureusement indépendante de l'État et de ses serviteurs divers et ne pas se laisser piéger par la ritournelle des journées d'action qui démoralisent, que ce soit dans la durée ou pas, hier comme aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cet article et je peux que vous inciter à vous procurer le livre d'Ariane Mack qui est tout à fait enrichissant sur cette période méconnue de l'histoire ouvrière en Angleterre, pendant donc la Deuxième Guerre mondiale. Et vous aurez remarqué, je crois que la conclusion de l'article le dit de manière très claire, hier comme aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes que nous retrouvons aujourd'hui même. Alors, je vous propose une chanson qui n'est pas forcément une chanson qui date de cette période, mais c'est une chanson de mineur et qui a été plutôt utilisée au moment des grèves des années 1980 en Angleterre, donc sous le thatchérisme. Cette chanson, c'est « 16 Stones » de Merle Travis, et qui a eu un très très grand succès puisqu'elle a été le numéro un des charts américains avec la reprise de Tennessee Ernie Ford et qui fut ensuite chantée par Bud Dilley ou Johnny Cash. Et donc son refrain, Saint Peter, don't you call me cause, etc. Je vous donne directement la traduction. Saint-Pierre, ne me rappelle pas à toi, je ne peux pas partir. J'ai laissé mon homme en gage au magasin de la compagnie. Et donc ce refrain lui a été inspiré par le système même de l'industrie minière qui, pour rendre ses ouvriers dépendants de leur mine, ne les payait pas avec de l'argent, mais avec des bons d'achat qu'ils ne pouvaient utiliser qu'au magasin de la mine, près desquels se trouvaient souvent les dortoirs de l'entreprise. Avec 16 tons, on comprend les conditions de travail des mineurs, mais aussi leurs dangers et les questions sociales qui en découlent. Et là encore, je donne une traduction d'une phrase, d'une citation de la chanson. Vous ramenez 16 tonnes, d'où le titre de la chanson, et qu'est-ce que vous en tirez? Vous êtes plus vieux d'un jour et plus endetté. Et la chanson se termine par, et là, je donne encore directement la traduction, combat et agitation sont mes seconds prénoms. 16 tons, donc par Merle Travis.
You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Yes, sir, there's a menu, a Kentucky coal miner that pert near owes his soul to the company store. He gets so far in debt to the coal company he's a-working for that he goes on sometimes for years without being paid one red cent in real honest-to-goodness money. But he can always go to the company store and draw flickers or scrip. You know, that's little brass coins that you can't spend nowhere only at the company store. So they add that against his account, and every day he gets a little farther in debt. That sounds pretty bad, but even that's got a brighter side to it. Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mines. Loaded 16 tons of a number 9 coal and the straw boss, I hollered, well, bless my soul, 16 tons. And what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble is my middle name. I was raised in the bottoms by a mama hound. I'm mean as a dog, but I'm as gentle as a lamb. I load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, if you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. I got a fist of iron and a fist of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Donc le sujet de cette chronique montre à quel point est important d'étudier les questions de la guerre, pourquoi à la Libre Pensée nous sommes fondamentalement contre la guerre et pourquoi nous prenons des initiatives sur cette question du pacifisme. La guerre, c'est aussi, et c'est ce que montre le livre d'Ariane Mack, la disparition des règles, de toutes les règles, la mise en place de décrets qui réprime les militants syndicalistes qui tentent d'empêcher tout mouvement social au nom de l'unité nationale. On a vu comment là en Angleterre les dirigeants syndicalistes se sont pour un bon nombre intégrés complètement dans cette unité nationale et se sont finalement dressés contre leurs propres adhérents, mettant en avant donc cette nécessaire unité nationale au compte de qui, et je rappelle à ce sujet la phrase d'Anatole France, on croit se battre pour notre patrie et pour la patrie, on meurt pour la guerre. Et on meurt pour les industriels. Voilà. Donc c'est sur cette question-là que samedi prochain à Saint-Léon-sur-l'Île, il y a une journée de la libre pensée avec deux thèmes qui sont proposés dans deux débats qui auront lieu l'après-midi. Donc une réunion débat sur la question donc de la guerre, du pacifisme, des initiatives sur ce terrain du pacifisme, pas un sou, pas une âme, pas une vie pour la guerre, et un autre débat sur la laïcité. La laïcité, c'est la liberté. La liberté, c'est la laïcité. Et nous vous proposons donc de venir samedi 4 octobre à partir de 12h30 pour participer au casse-croûte, et puis ensuite dans l'après-midi, donc les deux débats que je viens d'évoquer. Et puis alors, deuxième initiative qui est tout à fait importante, c'est dimanche 5 octobre à Paris, le grand meeting contre la guerre, meeting auquel le congrès national de la Fédération nationale de la libre pensée, qui s'est tenu fin août, a apporté son soutien et appelle les militants, appelle les sympathisants de la libre pensée à venir aller à Paris donc ce 5 octobre pour ce grand meeting, avec à la tribune de ce meeting des militants et des dirigeants d'organisations venant des États-Unis, de Democratic Socialists of America, de Code Pink, des associations anti-guerre des États-Unis et d'Angleterre, et avec également la cofondatrice du parti qui se constitue actuellement en Angleterre à l'appel donc de Jeremy Corbyn et de Sarah Sultana, qui sera présente, c'est elle qui sera présente à ce meeting. Donc ça va être un meeting extrêmement important, dont bien évidemment nous parlerons dans de prochaines chroniques. Voilà. Alors, avant d'en venir là au deuxième choix musical de cette chronique, je voudrais revenir un petit peu sur les chansons que nous avons écoutées et indiquer que donc la deuxième chanson que je vous propose, elle est titrée donc « De quel côté êtes-vous ? Seras-tu un briseur de grève ou bien un homme ?» Et c'est une chanson donc qui sera interprétée, je crois, par un groupe Almanach Singers. Voilà, Almanach Singers. Voilà. Également un mot sur... on a parlé là dans la première partie de la chronique là des mines de Bettsanger. Et il y a une histoire très très importante dans cette mine. Et par exemple, en 1938, une grève fut déclenchée. C'était alors la mine la plus importante du Kent, hein, cette mine de Bettsanger. Et en 1938, une grève fut déclenchée lorsque certains mineurs refusèrent d'accepter le comportement des deux adjoints chargés de leur surveillance. Plus tard dans la journée, le reste des mineurs et tous les colliers se les rejoignirent, principalement parce que la mine ne pouvait fonctionner correctement sans eux. Les travaux ne reprirent qu'après l'accord d'une enquête publique. Bettsanger fut la... Alors, le site explique que c'était la seule mine à être en grève pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit que c'est loin d'être le cas, puisqu'il y a eu 3500 grèves dans les mines à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, les mineurs se mirent en grève à Bettsanger pendant la guerre pour obtenir des indemnités pour l'exploitation d'un filon difficile, les conditions changeant d'une semaine à l'autre. Trois responsables syndicaux furent emprisonnés et plus de 1000 hommes durent choisir entre une amende et les travaux forcés. On y fait référence, Ariane Mack y fait référence dans son livre. Et donc, les autorités tenaient à réprimer la grève, elle risquait de s'étendre à d'autres mines et le gouvernement ne pouvait se le permettre en pleine guerre. Mais on a vu comment les mineurs avaient refusé de payer les amendes, sauf 9 qui ont essayé de faire de réclamer le remboursement et qui n'ont pas pu l'obtenir. Voilà. Et donc, les 1000 hommes qui devaient aller en prison, ils n'avaient pas de place pour les mettre. Et le gouvernement ne fit rien du tout. Et finalement, libéra y compris les 3 responsables syndicaux emprisonnés. On voit comment la lutte des classes s'exprime donc, y compris en pleine guerre. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose le deuxième chant dont je viens de vous parler. Donc, de quel côté êtes-vous ? Et c'est donc Almanach Singers qui interprète cette chanson que nous écoutons. «
From all of you good workers, good news to you I'll tell, of how the good old Union has come in here to dwell.
Which side are you on? Which side are you on?
My daddy was a miner, and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won.
Which side are you on? Which side are you on?
They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair.
Which side are you on? Which side are you on?
Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man?
Which side are you on? Which side are you on?
Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize.
Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on?
Donc pour conclure cette chronique, je vous propose de lire simplement le court appel qui émane du congrès de la Fédération nationale libre pensée, là dont je parlais juste avant cette chanson. Donc l'appel a participé au meeting du 5 octobre à Paris. Ensemble, agir contre la guerre. L'action pacifiste internationaliste est un impératif catégorique. C'est pourquoi le Congrès national de la libre pensée contre la guerre et pour la paix décide que la FNLP appelle à participer au meeting international du 5 octobre 2025. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Comment ne pas être d'accord avec ce que dit l'appel à ce meeting ? Citation : l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale se désintègre politiquement, financièrement et militairement. Nous faisons face à de multiples crises qui s'aggravent. Celle du capitalisme lui-même qui met en danger l'avenir même de l'humanité, l'effondrement écologique imminent et le risque croissant d'une guerre mondiale, voire d'une guerre nucléaire. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par le second mandat de Trump et par la montée de l'extrême droite en Europe. C'est pourquoi des militants, des syndicalistes et des démocrates de toute l'Europe lancent cet appel à s'unir contre la guerre et contre les dépenses militaires, à rejeter l'exigence des gouvernements européens de soutenir leur politique brutale et destructrice au nom d'une prétendue union nationale. Il s'agit là d'un patriotisme factice. Ces guerres ne sont pas les nôtres, nous ne les paierons pas, nous ne mourrons pas pour elles. Non à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux, non au budget de guerre et aux fauteurs de guerre, non aux politiques de guerre, d'où qu'elles viennent. Voilà, donc rendez-vous lundi 6 octobre et je pense que nous parlerons de ce grand meeting qui se sera tenu la veille à Paris et auquel une délégation du groupe Pretzeler participera. À lundi.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Pretzeler de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Pretzeler lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Pretzeler sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.
Elle tient tout clair.